Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Aujourd'hui, on est le 9 février 2025. Alors, la semaine aurait donc commencé par les droits de douane et ce sera terminé par les droits de douane. La volatilité était extrême, enfin relativement élevée quand même tout au long de la semaine, et la résilience des indices reste complètement impressionnante puisque ça ne veut pas baisser, même si on termine un petit peu dans le pâté en fin de semaine à cause de l'axe central des marchés qui est bien sûr Donald Trump. Donald Trump qui a laissé entendre que la semaine prochaine, il allait plus ou moins taxer tout le monde dans tous les sens. Bon, alors j'exagère un peu quand je dis tout le monde, mais il faut dire qu'on possède que peu d'informations sur les prochaines victimes du président. A priori, l'Inde serait le premier sur la liste, puis ensuite il y aura l'Europe, la Thaïlande, Taïwan, le Vietnam, enfin, la liste est non exhaustive et pourrait bien sûr être rallongée ou raccourcie, tellement on sait que le locataire de la Maison Blanche est complètement imprévisible. Les indices ont donc fini la semaine dans le pâté, avec des nouvelles craintes qui reviennent. On avait déjà vécu un événement plutôt similaire en début de semaine, enfin le week-end dernier même. Les marchés s'étaient nettement repris, vous connaissez l'histoire, hein, début de semaine catastrophique, puis rebond parce que finalement on trouve des arrangements. À l'heure actuelle, on vit quand même au rythme des annonces de Trump, principalement, et visiblement, ben, va falloir s'habituer parce que, il a environ une dizaine d'idées à la minute. Hier encore, il a réussi à retirer l'accréditation au dossier confidentiel à Joe Biden, parce qu'il ne doit pas changer grand-chose vu la mémoire de l'ancien président. Et puis, dans la foulée, il veut aussi autoriser le retour des pailles en plastique, parce que le papier, ça fonctionne pas bien, selon lui. On voit qu'il y a des vraies grandes priorités pour rendre l'Amérique great again. Et ça passe aussi par les pailles, visiblement. Ces histoires de guerre commerciale ont été intégrées un peu quand même dans l'esprit des investisseurs. Comme on a bien compris, c'était surtout un moyen de pression pour obtenir des concessions, puisqu'on l'a vu, dès que y a le moindre droit de douane qui est mis en place, eh bien, il y a immédiatement une réplique, d'abord des victimes, et puis en deux, un accord dans les 24 heures pour essayer de régler le problème. Enfin, sauf sur la Chine, qui pour le moment a monté les tarifs contre les USA à 15%, et on attend toujours que Trump et Xi puissent se parler afin de trouver une solution, chose qui devrait quand même se produire à un moment ou un autre. Et puis, chose qu'on oublie peut-être un peu, ces menaces à coups de tarifs pèsent quand même sur le moral des consommateurs. Alors ça se voit pas forcément sur les performances des marchés, puisque malgré la baisse de vendredi, on est quand même pas loin du plus haut de tous les temps sur pas mal d'indices. Mais dans les chiffres de la confiance du consommateur qui sont sortis vendredi, on voit quand même que l'Américain moyen commence à être inquiet de ce que les tarifs pourraient donner s'ils venaient réellement à se pérenniser, à se mettre en place un peu partout. Le coût de la vie augmenterait déjà plus que probablement, et le chiffre de vendredi était donc au plus bas depuis 8 mois. On sent que les gens ils l'ont comme ça. Si vous avez un peu lu la presse du week-end, on parle aussi du prix des œufs qui est en train d'exploser encore et encore aux États-Unis, qui n'arrange encore moyennement les affaires des Américains. Les chiffres de l'emploi ont également été publiés vendredi. C'était même le chiffre économique le plus important de la semaine, même s'il a bien été mis de côté par la nouvelle histoire des tarifs qui stressaient les traders. Il faut dire que ces chiffres n'étaient pas non plus très révélateurs, puisqu'en janvier, le nombre d'emplois a augmenté de 143 000 contre 307 000 en décembre, et en dessous des attentes qui étaient à 169 000. Mais bonne nouvelle, le taux de chômage a baissé. Et les créations de jobs se sont même concentrées dans la santé, la vente de détail et les engagements de nouveaux fonctionnaires. D'ailleurs, ce dernier chiffre, les emplois des fonctionnaires, c'est un truc qui pourrait clairement se prendre une gigantesque claque dans la figure ces prochains temps, en vue du travail de nettoyage par le vide qui a été entrepris par les gars d'Elon Musk et d'équipe du Dodge. Par contre, les salaires ont augmenté un peu plus que prévu. Bref, on peut dire que dans ces chiffres, on a du bon qui annule du mauvais et qui n'offre grosso modo aucune indication précise pour l'avenir des taux. Une chose est pratiquement certaine, ils ne baisseront pas les taux au mois de mars lors du prochain FOMC meeting, ce qui devrait faire moyennement plaisir à Trump. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle ces derniers temps et on en parle encore toujours beaucoup. Les montants qui seront dépensés dans le secteur en 2025 seront probablement aussi élevés qu'en 2024. Personne ne se pose de questions sur la thématique du retour en investissement. Parce que je rappelle qu'en 2024, on a quand même investi près de 300 milliards et que les revenus directement liés à l'IA sont péniblement entre 10 et 20 milliards selon les estimations. Alors oui, on sait que l'IA a de tout de même boosté pas mal les revenus des Magnificent Seven, ou 8 entre autres, mais les revenus directs, comme les cotisations ou les prix qu'on paye pour s'abonner à des services d'intelligence artificielle, sont encore délicats à déterminer. Mais une chose est sûre, On dépense plus qu'on récupère pour le moment. ChatGPT estime d'ailleurs que d'ici 2029-2030, la tendance devrait s'inverser, mais ça fait encore dans quelques années. Néanmoins, les annonces faites par Google, Meta, Amazon et Microsoft depuis 10 jours nous permettent quand même d'avoir un chiffre estimé pour l'année 2025 qui devrait tourner autour des 300 milliards encore une fois, si ce n'est plus. On a appris que ce week-end, SoftBank allait encore investir 40 milliards pour prendre une participation dans OpenAI, ce qui valorise la boîte de Sam Altman à près 260 milliards, alors qu'elle n'est même pas encore cotée en bourse. Et on a donc définitivement ou presque définitivement oublié le chapitre DeepSeek. Nvidia a d'ailleurs aligné 5 séances de hausse la semaine dernière et reprenait près de 15% sur la semaine. Merci aux copains des Magnificent Seven qui lui jettent du pognon au visage encore et encore. Côté banque centrale, petit mot sur la Banque d'Angleterre. Alors eux, ils ont une économie qui est déjà au fond du bac, ils sont menacés par les droits de douane américains et la Banque d'Angleterre a donc revu fortement à la baisse jeudi ses prévisions de croissance. Et elle a baissé son taux directeur à 4,5%. Si on regarde les performances de la semaine, eh bien vous voyez que le Hang Seng reprend 4,5%, mais était fermé encore un petit peu à cause du nouvel an chinois. Mais globalement, finalement, la riposte des Chinois a l'air de plutôt satisfaire ce qui se passe du côté de la Chine et du côté de Hong Kong. L'Espagne avait des très bonnes performances également, 2,6% sur la semaine. L'or qui a aussi touché du nouveau historique, plus 1,86%. L'Italie qui va pas mal. Le Nikkei qui prend 0,45%, le CAC et le DAC qui sont un peu à la peine, mais quand même, on termine quand même en hausse, et puis après, vous voyez le reste, la Suisse qui finit quasiment à l'équilibre, le semi-conducteur index qui tient toujours dans son canal latéral, on va le voir tout à l'heure sur les graphiques, le S&P qui termine en baisse de 0,24 à cause des droits de douane en fin de semaine, tout comme le Nasdaq, et le Dow Jones qui sont quand même relativement proches des plus hauts historiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, on notera quand même le pétrole qui repère 2%. Le pétrole qui a pris comme une grosse claque depuis l'intronisation de Donald Trump. On sait qu'il a une vraie volonté de faire baisser le prix de l'essence, donc le prix du baril. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Du côté du SMI, sur la semaine, vous voyez que Holcim reprend 3,7%, que Novartis prend 1,3%, que Lonza reprend 3,75%, que l'UBS s'est fait taper dessus pour des mauvaises raisons, mais on va en reparler très brièvement tout à l'heure. Et Roche reprenait aussi 1,05%. Il faut dire que les pharma ont été un petit peu aidés avec les bonnes nouvelles, entre guillemets, qui ont été données sur Eli Lilly et Novo Nordisk, qui sont plutôt rassurés pour l'avenir des médicaments anti-obésité. Vous voyez que Nestlé termine quasiment à l'équilibre, mais on a vu un retour d'intérêt sur Nestlé et toutes ces valeurs défensives qui ont beaucoup souffert pendant pas mal de temps, mais qu'aujourd'hui, avec les tensions qu'on a un petit peu aux États-Unis, les gens reviennent dessus, se positionner un tout petit peu, même si la performance de la semaine est franchement pas extraordinaire. On va se contenter de ce qu'on a pour l'instant. Le SMI que vous avez devant les yeux, vous voyez qu'on a péniblement tenté de faire quelque chose, mais on est en train de construire un peu une résistance, hein, on va dire dans la zone des 12 600, et c'est difficile d'aller plus haut pour l'instant. On a beaucoup monté. Il semblerait assez logique qu'on reperde un peu de terrain quand même, parce que ce genre de hausse verticale, alors je suis d'accord qu'on n'a rien foutu pendant longtemps, mais ce genre de hausse verticale, c'est jamais très durable, en tout cas pas sur la Suisse, donc il pourrait quand même y avoir un peu de faiblesse. Je pense qu'il faut vraiment surveiller la zone du top récent de ces 4-5 derniers jours. Si on arrive à casser en dessus, puis s'établir en dessus des 12 700, on pourra dire qu'on a encore une forme de continuité, mais vous voyez que le trend, c'est plus un trend, c'est une fusée verticale, et c'est un peu trop vertical pour l'instant, à mon goût. Moi, j'aime pas quand ça monte comme ça, donc je préférais que quelque part, on se recalme un petit peu pour pouvoir reconstruire des tendances un peu plus en escalier, avec une pente un peu moins raide que ce qu'on vit aujourd'hui sur le SMI. Puis souvenez-vous toujours qu'il y a quand même un gap qui a été laissé là derrière et que les gaps sont faits pour être comblés. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera forcément un autre jour. Le S&P 500, alors vous voyez que pour l'instant, c'est très très latéral, hein, le S&P 500. On est relativement solide sur nos appuis, comme on dirait. Mais en tous les cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt dans une tendance latérale. Vous voyez qu'ici, on va dire que les 5950 et 6000 devraient faire un peu effet de support. Et pour le reste, eh bien, la résistance est au plus haut historique, hein, à 6129. Donc vous voyez que pour l'instant, ce qu'il faut vraiment surveiller sur l'indice, c'est que tant qu'on reste dans ce canal, on peut essayer de jouer le range pour ceux qui font du trading à court terme. Mais toute sortie en direction du sud ou du nord pourrait être signe d'accélération. En tous les cas, ce qui est assez impressionnant, c'est que compte tenu de ce qu'on a comme information aujourd'hui, on voit quand même que l'indice tient relativement bien à haute altitude. Le Nasdaq, plus ou moins configuration similaire. Vous voyez un peu les indicateurs en bas ici qui sont plutôt sur le signe de se dire, ah, tiens, c'est en train de redémarrer, peut-être qu'il y a un truc à jouer. Alors on verra un peu comment on va réagir lundi avec ces histoires de droits de douane. Ce qui est assez intéressant sur le sujet des droits de douane, c'est que effectivement, on a quand même déjà vu l'histoire l'autre jour, comme quoi ça pouvait freiner le marché, mais qu'on réagissait assez rapidement dans le bon sens après. Là aussi, hein, vous voyez, le Nasdaq, il tient plus ou moins, on va essayer de déterminer une zone de résistance entre, on va dire, 20 950 et 20 500. Tant qu'on reste en dessus de ça, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Et puis si on va chercher un petit peu plus haut, là aussi, vous voyez qu'on va aller chercher les 22 100, grosso modo, qui seront un peu les plus hauts historiques. Donc là aussi, pour l'instant, une tendance relativement latérale sur le Nasdaq. Ce qui nous amène au SOX, hein, vous savez, cet indice qui est un indicateur avancé du comportement des marchés. Alors vous voyez ici que le SOX, c'est bien comme d'habitude, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, on est dans un range. Tout ce qui s'est passé sur les semi-conducteurs, eh bien, ont des conséquences. Aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas vraiment de direction. Ça, c'est l'affaire DeepSeek qui avait coûté la correction assez violente. Après, on a eu les droits de douane la semaine passée, mais vous voyez qu'on tient là aussi les 4 800 sans trop de problèmes. Et donc, tant qu'on arrive à tenir ces niveaux-là, ici, ben, je pense qu'on peut avoir encore une consolidation latérale. C'est vrai que depuis quelques temps, on a quand même l'habitude d'avoir des marchés qui montent très fort, mais les phases de consolidation latérale, comme on vit depuis le mois d'août, hein, sur le SOX, ça existe et ça peut des fois durer très très longtemps. Et j'ai souvenir, il y a très longtemps, quand j'ai commencé dans le métier, que le SMI, il avait rien foutu dans un range de 200 points pendant pratiquement 2 ans. Et franchement, mis à part faire du trading à court terme, c'était très compliqué de s'en sortir. Et même là, c'était compliqué. Donc voilà, pour l'instant, zone d'hésitation. On va y voir un peu plus clair au niveau des semi-conducteurs ces prochains temps. Alors je rappelle que Nvidia va publier ce faire le 26 février. Donc ce sera la date importante pour voir si on peut, avec les chiffres de Nvidia, remonter aussi. À noter quand même que si on fait justement un détour par Nvidia, je vous le disais tout à l'heure, vous voyez la semaine qu'elle vient de nous faire, mais malgré cela, pour l'instant, ça suffit pas. On a rebondi de 15% par rapport au plus bas de la semaine dernière. On était à 112,49. On termine la semaine à 129. Il va falloir revenir quand même maintenant au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours, à savoir les 134,62. Et puis ensuite, on pourra espérer repartir à la hausse. Mais il va falloir montrer plus que ça, parce que pour l'instant, on essaie de rebondir sur des chimères en se disant, ah oui, mais quand même, ils ont un super business. Et puis c'est pas parce que DeepSeek arrive que ça va pas marcher. Mais attention, pour l'instant, Nvidia a quand même pas suffi à elle toute seule à faire remonter tous les semi-conducteurs qu'on a cotisé lors de la période DeepSeek. On a vu la semaine dernière, par exemple, en dehors de Nvidia, une boîte s'appelle Skyworks aux États-Unis, qui fait aussi dans les semi-conducteurs et qui bosse avec Apple, qui a dit que les changements de business plan d'Apple, qui vont développer leurs propres semi-conducteurs, allaient leur coûter beaucoup d'argent. Vous voyez que l'annonce n'a pas super bien passé, puisque le titre se traitait autour des 90 $ et se retrouve aujourd'hui à 65. Donc on voit aujourd'hui que le secteur est un peu en difficulté et que même si Nvidia va bien ou pourrait aller relativement bien, eh bien ça reste quand même assez compliqué en ce moment sur les semi-conducteurs, et c'est un peu à l'image du SOX. Je vous ai beaucoup parlé des États-Unis, alors passons en Allemagne pour l'instant. Alors vous voyez que l'Allemagne est toujours relativement forte pour l'instant, donc il n'y a rien à dire. Ça fait des semaines que je vous dis, elle ne veut pas lâcher. Ben, elle ne veut toujours pas lâcher. On était au plus haut de tous les temps encore jeudi soir sur l'Allemagne, et puis on a eu ce repli à cause des droits de douane en fin de semaine. À voir un peu comment ça va se comporter ces prochains temps, mais ça devient quand même de nouveau en termes d'évaluation relativement élevé, même si les chiffres qui ont été publiés cette semaine étaient plutôt encourageants. Vous voyez que là aussi, on a laissé un petit gap. Bon, on est tout près, donc c'est pas très important. Là, je crois qu'il y en a aussi un qui doit être encore existant, même s'il est un petit peu tiré par les cheveux. Bref, l'Allemagne est quand même très overextended, mais pour l'instant ne veut pas renoncer à sa croissance et à sa hausse. Le CAC 40, lui aussi, est en train de patiner un peu dans la zone des 8 000 points sur l'indice pour l'instant. Rien de spécial, des chiffres relativement positifs encore une fois sur le secteur bancaire, puisque Sanofi a publié des pas Sanofi pardon Soggen a publié des chiffres exceptionnels, le titre a explosé, tout comme ArcelorMittal. Donc tout ça a bien aidé le CAC 40. Alors le CAC 40 qui a aussi bénéficié d'une certaine réassurance de la part du gouvernement, puisqu'ils ont réussi à voter un budget. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un budget, c'est pas un budget, c'est une bouse. Mais enfin, pour l'instant, au moins, ils ont une bouse en termes de budget, et ça rassurer un peu les marchés financiers. Grosso modo, vous voyez que pour l'instant, on patine dans la zone des 8000 sur le CAC 40. Si on arrive à s'établir en dessus, on pourra peut-être se dire qu'on va développer une base pour aller chercher les plus hauts historiques. Ça sera affaire à suivre ces prochains temps. Il y a encore pas mal de publications de résultats qui vont arriver. Mais pour l'instant, la France a vécu encore une belle semaine et surtout a permis à un moment donné, très court, de repasser au-dessus des 8000 points sur le CAC 40. Et ça faisait longtemps que ça n'était plus arrivé, puisque ça n'était plus arrivé depuis le coup de génie d'Emmanuel Macron. En dissolvant l'Assemblée nationale au mois de juin dernier. On termine cette revue des indices techniques par le pétrole. Je vais même vous remettre l'or encore après, mais pour l'instant, le pétrole, vous voyez qu'on revient sur notre tendance qui dure depuis le mois de septembre. Il ne serait pas exclu qu'on ait cherché les 68 à surveiller. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'en ai d'ailleurs déjà parlé dans le Morning Bull Live la semaine dernière, vous voyez que cette tendance, bah, c'est une tendance Trump. Hein. Depuis que Trump est arrivé, plus ou moins, bah, il fait tout pour drill, baby drill, pour ramener une chier de pétrole sur le marché. Et en plus, aujourd'hui, il y a moins de demande, donc forcément, petit ralentissement, qui est aussi positif quand même, il faut le dire de temps en temps, pour le coût du porte-monnaie, enfin le coût de la vie, puisque quand même, ça fait un petit peu moins cher pour le consommateur, et ça vaut la peine d'être signalé quand même. Ouais, je vais quand même vous montrer l'or, parce qu'on est quand même au plus haut de tous les temps, il faut quand même le signaler, hein. Donc l'or, vous le voyez, on est au plus haut de tous les temps, crainte d'inflation, les banques centrales qui achètent, blablabla, toujours la même histoire. Vous voyez que pour l'instant, on est clairement suracheté, mais en même temps, ça reste quelque chose de relativement rassurant. Mais c'est le seul truc qui n'a pas trop de volatilité et qui monte gentiment. Et là, encore une fois, assez, on va dire, logiquement, même si ça n'a aucune base fondamentale, je pense que l'or va monter tranquillement à 3000. La question, c'est de savoir s'il y va dans 2 semaines ou s'il y va dans 6 mois. Mais l'un dans l'autre, le chemin a l'air tout tracé pour au moins aller marquer un jour les 3000$ sur l'once d'or. Au niveau des vedettes de la semaine, eh bien, on a déjà abordé les chiffres de Julius Baer, qui étaient globalement pas trop mal. On en a parlé dans le Morning Bull Live l'autre jour, mais l'annonce du programme de réduction du personnel et les ratios de capital étaient un peu trop faibles selon les experts, ainsi que surtout l'absence totale d'un share buyback. Ça n'a pas du tout plu au marché. Le titre s'est fait exploser, vous le savez, même si sur la fin de la semaine, il a quand même réussi à récupérer un petit peu, mais c'était compliqué. Chez ABB, rien à signaler non plus. On en a parlé la semaine dernière, les chiffres étaient bons, mais les perspectives insuffisantes pour les analyses. En revanche, eux, ABB, ils vont lancer un programme de rachat d'actions qui commencera donc ce lundi, donc demain, pour un montant de 1,5 milliard, soit 28 millions d'actions. Mais alors, ne vous précipitez pas pour acheter des calls parce que le programme d'achat durera plusieurs mois. Ça va pas tout se faire demain matin. UBS aussi a publié de très bons chiffres, mais c'est fait massacrer quand même dans une vague de prise de profit. Et certains se disaient déçus par le programme de rachat d'actions qui n'est que de 3 milliards. Pourtant, les attentes étaient quand même un peu en dessous. Mais bon, il faut bien trouver une excuse pour justifier les prises de profit. Entre les plus bas de la semaine et vendredi soir, le titre a quand même récupéré 1 franc. Et puis, toujours dans le secteur bancaire, la Banque cantonale de Lucerne a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 286,6 millions. Ça n'aurait jamais arrivé des bénéfices pareils. La Banque cantonale de Zoug a légèrement augmenté son résultat d'exploitation de 0,9% à 142 millions en 2024, alors que le bénéfice a légèrement diminué de 2% à 122,4 millions. Et puis, Valiant, le groupe bancaire régional bernois, a dégagé un bénéfice net en augmentation de 4,2% à 150,4 millions de francs au cours de l'exercice 2024, comme quoi ça va plutôt pas mal dans le secteur bancaire. Dormakaba, le spécialiste des portes et serrures, a annoncé s'attendre à une hausse significative de son bénéfice net au premier semestre de son exercice 2024-2025, qui s'est terminé fin décembre. La cession d'un site à Montréal explique en partie cette nouvelle qui a un petit peu surpris le marché. Vous voyez le graphique de Dormakaba. Alors effectivement, l'annonce que je viens de vous faire, eh bien, s'est faite il y a 3 jours en arrière. Donc on a cette pointe à la hausse ici. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est venu, d'un point de vue purement technique, tester plusieurs fois la moyenne mobile des 200 jours. On a été la tester en bas. Et puis finalement, la nouvelle fait qu'on repasse en dessus. Et ça, c'est assez encourageant. Alors, ça, c'est un chart qui veut rien dire à la base. Mais si vous voulez, moi, ça fait partie un peu de ces graphiques où je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi. Mais ça donne l'impression qu'on va en tout cas retourner et chercher les plus hauts ici. Et puis si on arrive à les casser, on risque d'avoir une belle accélération. Donc, à surveiller. Et il y a un truc assez bien à jouer sur Dormakaba, c'est que si on reste en dessous de la moyenne mobile en blond, là, et que vous avez, c'est la moyenne mobile des 100 jours, justement. Et si on reste établi là en dessus, eh bien, je pense qu'on a une bonne base pour continuer à aller chercher plus haut. Et c'est assez facile de se stopper parce que si on vient clôturer un petit peu trop en dessous, je dirais même en dessous de ces niveaux-là, là, il faut couper la position. Basilea était en hausse en début de semaine. La société pharmaceutique a vu que ses ventes sur son antimycosique Cresemba, qui s'appelle aussi Lisavuconazole, franchir un premier jalon commercial prédéfini au Japon, et ce qui a déclenché un versement automatique de 1,2 million de francs suisses de la part de son partenaire de distribution au Japon, qui s'appelle Asahi Kasei Pharmaceutique. Donc c'était une bonne nouvelle aussi pour Basilea. Alors sur le graphique, ça ne change pas grand-chose. Pour l'instant, le titre se balade toujours dans la zone des 40 balles. Là aussi, on a l'air d'être un peu dans une zone d'hésitation, comme à l'image de beaucoup de pharma à l'heure actuelle. Donc, un niveau d'achat sur la zone des 39,50, et puis si jamais un niveau de vente à 44 francs suisses, si ça venait à se produire pour ceux qui font du trading là-dedans. Mais pour l'instant, rien de très significatif, même si la nouvelle, il faut quand même le reconnaître, était positive pour Basilea. Temenos, le spécialiste des logiciels bancaires, a signé un accord pour vendre son unité de gestion de fonds qui s'appelle Multifonds à une société de capital investissement britannique qui s'appelle Montagu Private Equity, valeur estimée à 400 millions de dollars, ce qui comprend un earn-out, soit un complément de prix en fonction des performances de la société. Alors vous voyez qu'après tous les déboires de l'année dernière, Temenos essaie de se reconstruire. Alors le chart ne veut absolument plus rien dire, vous avez des trous partout, donc c'est toujours un petit peu délicat, mais enfin pour l'instant, les bonnes nouvelles et la restructuration mise en place semblent fonctionner. Difficile de prendre une position uniquement sur base technique. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations et peu de visibilité à moyen terme sur Temenos. Dätwyler, qui est en pleine restructuration, l'industriel ouranais a vu ses résultats se replier en 2024, ne parvenant pas à combler les attentes du marché et les coûts de restructuration ont pesé sur la rentabilité. Vous voyez que l'annonce n'a pas forcément beaucoup plu. La seule chose qu'on va retenir, et ça va être très vite fait sur Dätwyler, c'est qu'on est en train quand même de construire une base dans la zone des 130. Donc tant qu'on reste là-dedans, on est en consolidation latérale et dès qu'on arrivera à se réveiller puis aller casser un petit peu, chercher plus loin, peut-être qu'on pourra commencer à développer quelque chose. Mais encore une fois, il faudra voir comment la fin de la restructuration se passe, si ça se passe bien et si ça finalement apporte un petit peu plus de revenus et de positivisme à l'intérieur de la société ces prochains mois. Léontech, le spécialiste des produits structurés, a dû constituer d'importantes provisions pour l'année dernière, suite aux sanctions qui ont été infligées par nos amis de la FINMA, ce qui a fait chuter son bénéfice net. Le groupe Zurichois annonce aussi la nomination d'un nouveau CEO. Le bénéfice net de Léontech a dégringolé de 72% sur un an, à 5,8 millions de francs suisses. C'est ce qu'ils ont déclaré jeudi dernier. Le conseil d'administration a quand même proposé un dividende qui a été légèrement raboté, c'est 0,25 francs. Enfin, 25 centimes par titre contre 29 centimes précédemment. Et le titre s'est donc fait encore une fois massacrer en bourse la semaine dernière. Alors eux, depuis qu'ils ont été épinglés par la FINMA, ils ne s'en sortent pas. Alors pour l'instant, vous voyez, c'est difficile de dire qu'il y a un retournement à un moment, une stabilisation. Non, c'est de pire en pire. Alors on espère que avec l'arrivée d'un nouveau CEO, eh bien on va chercher le fond définitif. Mais enfin, pour l'instant, on revient sur cette bonne vieille citation qui dit « On ne rattrape pas un couteau qui tombe ». Et c'est exactement ce qui est en train de se passer sur Léontech. Ce qu'on aurait bien voulu voir, c'est une consolidation un peu dans le genre de celle-ci, avec un redémarrage. Ben, c'est pas pour cette fois. Maintenant, je ne sais pas où c'est qu'il va falloir aller la chercher, mais en tout cas, il faudra voir si à un moment donné, on arrive à se stabiliser pour trouver un fonds ou une valeur à peu près correcte à Léontech, qui est en train d'essayer de laisser ses casseroles derrière elle. Rumeurs de fusion dans le secteur des télécoms. Swisscom en a bénéficié un petit peu. Il y a des rumeurs comme quoi le français Xavier Niel envisagerait une fusion avec Team, le numéro 1 transalpin, donc ça faisait un petit peu mousser à la mayonnaise de ce côté-là. Vous voyez que ces nouvelles de rumeurs de fusion moussaient un peu l'action, donc il y avait des gens qui étaient peut-être un petit peu au courant en début, enfin jeudi matin, et puis on en a profité vraiment Vendredi, résultat, le titre a pris 30 balles en fin de semaine sur les deux dernières séances. Techniquement, c'est un peu à l'image de tout ce que se fait Swisscom. Il se passe rien pendant 3 semaines, et puis tout d'un coup, ça se réveille, ça bouge beaucoup, et puis il se passe de nouveau plus rien pendant 3 semaines. Affaire à suivre ces prochains temps. Comme vous le savez, je suis pas un monstre fan de l'action Swisscom. Vontobel a vu son produit d'exploitation annuel grimper de 9% à 1,42 milliards de francs suisses. Les actionnaires se contenteront d'un dividende inchangé, c'est ce qu'ils ont annoncé en fin de semaine. Comme vous le voyez, regardez-moi cette journée de folie qu'ils nous ont fait sur Vontobel. Une ouverture au fond du bas, enfin une ouverture en haut, on descend au fond du bac et on remonte finalement pour clôturer quasiment au plus haut de la journée. Bref, difficile d'interpréter, mais ce qu'il faut retenir quand même, et l'un dans l'autre, c'est le message que le marché nous fait passer depuis déjà 3 semaines aujourd'hui. Les bancaires vont super bien. Tout le secteur bancaire sort des résultats complètement ahurissants. D'ailleurs, ça nous permet de rebondir sur la Société Générale qui a littéralement explosé la semaine dernière après des chiffres absolument fantastiques et des très bonnes nouvelles au niveau de la banque de détail en France. Et puis alors, pour terminer ce Swiss Bliss, Bioversis, le laboratoire spécialisé dans la lutte contre la résistance microbienne, a connu un premier jour de trading en bourse vendredi, puisque c'était la mise en place de l'IPO. Départ mitigé, le titre de la biotech bâloise a terminé la séance à un cours inférieur au prix d'émission. Elle a ouvert à 36,50, elle était jusqu'à 37, et puis ensuite elle finit à 35,15. Donc c'était le premier jour de la mise en bourse de l'IPO. Plus de 2,2 millions de titres ont été placés au prix de 36 francs, pour un volume total de quelques 79 millions de francs suisses. Je vous avoue, c'est pas l'IPO la plus délirante de l'année. Pour la semaine qui nous attend, on va donc reparler droits de douane, vous l'aurez compris, évidemment, mais aussi inflation, puisqu'il y aura le CPI en Chine et aux USA, puis également le PPI américain. Et vous voyez qu'il y a encore quelques chiffres qui vont être publiés cette semaine, comme vous le voyez sur le tableau qui s'affiche à l'instant. Donc encore une fois, on va beaucoup se concentrer sur la thématique des résultats et voir ce que ça va donner du côté du trimestre. C'est vrai que les chiffres et les sociétés qui ont la possibilité de faire vraiment bouger le marché pour l'instant sont principalement derrière nous. Voilà, c'est tout pour ce week-end. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de week-end, justement, et un très bon début de semaine. Et moi, je vous retrouve demain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager. Et comme d'habitude, bien sûr, à demain. Soyez forts. Très bonne journée. Bye bye.